Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Dans cette émission sur les arts sacrés, nous allons parler aujourd'hui d'une grande figure de l'Église catholique, à savoir Saint Vincent de Paul, que nous fêtons le 27 septembre. Et pour parcourir la vie et l'œuvre immense de Saint Vincent de Paul, j'ai à mes côtés Anne-Marie Aitze. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Je dois dire que nous sommes gâtés à Cahors, puisque l'église Saint-Barthélemy conserve dans ses murs un tableau au titre évocateur, l'apothéose de Saint Vincent de Paul, que vous avez bien sûr choisi, Anne-Marie, de commenter pour nos auditeurs.
Oui, oui, c'est en effet une chance et c'était très intéressant. Voilà, donc il y a dans l'église Saint-Barthélemy, dans le chœur, alors ce n'est pas facile à trouver parce que ce tableau, il est dans la chapelle côté gauche, dans le chœur. Donc, les visiteurs n'y vont pas forcément. C'est un tableau très grand. Hein, il fait 4 mètres de haut. Il tient tout le mur de la chapelle. Et il représente ce qu'on appelle la gloire de Saint-Vincent de Paul ou l'apothéose de Saint-Vincent de Paul. C'est-à-dire que c'est un tableau qui correspond à la canonisation de Saint-Vincent de Paul, qui était de 1737. Le tableau serait, donc du XVIIIe siècle. Hein, c'est un tableau XVIIIe et qui a été fait certainement au moment de la béatification, de la canonisation de Saint-Vincent de Paul. Alors, il représente donc Saint-Vincent de Paul qui monte au ciel. Et il est entouré de petits anges.
Portés
par les anges, mais des angelots. Alors, des angelots, il y a des poutis un peu partout, là, des têtes d'anges avec des petites ailes. Il y a au bas du tableau, dans des nuages, deux petits anges qui sont, eux, bien dessinés, c'est-à-dire entièrement, avec tout le corps, les ailes, qui ont des têtes bouclées. Et qui sont donc qui supportent le saint qui monte, les bras ouverts, bon, avec son habit de prêtre, c'est-à-dire une chasuble blanche, une soutane noire, et le visage de Saint Vincent de Paul. Et puis au-dessus, alors ce tableau est dans la lumière qui descend du triangle représentant Dieu, tout en haut.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et autour, donc toujours pareil, des petits anges. Je me demande si le fait qu'ils soient portés par des angelots ne serait pas en rapport avec l'œuvre de Saint Vincent de Paul pour les enfants trouvés, ce
oui.
qu'on va voir. Mm-hmm. Hein. On le représente souvent avec des enfants dans les bras, avec les filles de la charité ou Louise de Marillac. Voilà, donc je pense que c'est peut-être en rapport avec cela. Donc, c'est un très grand tableau, une belle œuvre. Mais il faut dire, et ça, c'est qui est intéressant, je suis contente de l'avoir trouvé, que c'est une copie moins bonne, hein, moins bonne que l'original. L'original est un tableau fait par un vrai peintre connu, un dominicain qui s'appelait Frère André.
Frère Jean André.
Frère Jean André, oui. Qui a beaucoup peint et qui avait quand même un certain talent. Apparemment.
Oui, il a fait beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont un peu partout en France.
Hein. Oui. Oui, et évidemment des sujets religieux.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, c'est exactement le même. Hein. La composition, c'est la copie conforme, sauf que le tableau de Frère André qui se trouve à l'église Sainte-Marguerite-Marie à Paris, bon, et de meilleure facture, ça c'est certain. Les angelots sont beaucoup plus beaux de visage, ils sont bouclés, il y a du mouvement. Le visage du saint et celui de Saint Vincent de Paul, parce que là, le visage dans le tableau de Saint Barthélemy, à mon avis, est raté. Mais là, on voit bien, le frère André, il a bien rendu l'expression de bonté qu'il y a dans Saint-Vincent de Paul, avec un sourire, il y a un tableau célèbre. On a des portraits de Saint-Vincent de Paul. C'est un homme qui avait des traits un peu forts, un gros nez. C'était un Gascon.
Oui.
C'était un Gascon, n'est-ce pas ?
On va
le voir plus tard. Donc, en effet, le visage est bien mieux réussi. Voilà donc l'œuvre de la... Et ça s'appelle l'apothéose de Saint-Vincent de Paul.
Voilà, c'est-à-dire la glorification,
voilà,
la montée au ciel, glorieuse de Saint-Vincent de Paul.
Mais enfin, nous sommes satisfaits d'avoir quand même une copie à Saint-Barthélemy, même imparfaite, elle y est. Voilà. Et c'est quand même un tableau qui mérite d'être vu. Il faut dire aussi pourquoi ce tableau est à Saint-Barthélemy. Enfin, peut-être qu'on le verra plus tard dans le discours. C'est en raison, évidemment, du séminaire qui était tenu par les frères lazaristes. Donc, l'ordre fondé par Saint-Vincent.
Saint-Vincent de Paul. Puis on va parler de Saint-Vincent de Paul, peut-être de sa vie.
De
quand
sa
même,
vie qui est très, très riche. Un vrai roman, d'ailleurs.
Oui,
un vrai roman.
Oui, mais qui est très intéressant.
Voilà. Et puis de son œuvre. Hein,
oui.
De son œuvre et de sa... spiritualité aussi, hein, qui est toujours active, disons. Vincent de Paul, il a dit que c'était un Gascon. En effet, il est né en 1581 au village du Pouille, à côté de Dax.
Oui. Mais il ne s'appelle plus Pouille.
Et non, il s'appelle...
Ce village, Saint-Vincent de Paul.
Voilà, Saint-Vincent, voilà, oui. Saint-Paul et Dax, je crois que c'est ça. Je me suis arrêtée une fois. Mm-hmm. Et ils ont reconstitué une ferme.
Oui, et puis il y a le chêne.
Voilà, et le chêne, un grand chêne
centenaire. Multicentenaire.
Voilà, que aurait pu voir Vincent de Paul à son époque. Quoi. Oui, c'est intéressant. Et donc, il est fils de Jean de Paul et de Bertrand de Maurras.
Alors oui, le terme de Paul est courant.
Courant
dans les Landes,
voilà,
à cette époque-là.
Voilà. Alors, c'est une famille d'agriculteurs, mais propriétaires de leurs terres.
Oui.
Donc, un petit peu au-dessus de ce qu'on appelait les laboureurs. C'est-à-dire, c'est ceux qui n'avaient pas de terre, qui étaient ou fermiers.
Il était agriculteur propriétaire.
Agriculteur propriétaire, dans un certain niveau quand même, social. Il y avait 6 enfants, il est le 3e. Et petit, il a toujours dit qu'il avait gardé les moutons, qu'il avait gardé les cochons, ce qui est certain.
Et oui, bien sûr, la vie de la campagne à l'époque.
Il a eu la vie de la campagne, un petit paysan landais de l'époque. Mais très vite, quand même, comme il était quand même vif d'esprit, sans doute, il a été envoyé au collège des Cordeliers à Dax, c'est-à-dire chez les franciscains, en fait.
Oui.
Voilà. Et il est pris sous la protection d'un ami de la famille, Monsieur de Comé, qui l'oriente vers la prêtrise. C'est un enfant pieux, c'est un enfant intelligent, donc voilà. Et il faut dire que avoir un fils prêtre dans une famille, c'était une source de revenus, c'était une source de considération, donc évidemment... tout le monde ne pouvait qu'être d'accord.
Une élévation sociale.
Une élévation sociale. Et d'ailleurs, Saint-Vincent de Paul va vivre au début un petit peu en sacerdoce comme ça, quand même. Hein.
Oui.
Au début, c'est un ambitieux, quelque part.
Absolument.
Hein. Il veut avancer. Bon, voilà. Donc, il fait sa théologie à Toulouse.
Oui. Et il enseigne aussi à Toulouse.
Voilà, il enseigne à l'Université de Toulouse. Voilà. Et en 1600... c'est-à-dire près de 20 ans, il est ordonné prêtre.
Voilà. Mais toujours dans un esprit...
dans un esprit un peu de...
Pour avoir des bénéfices.
Exactement,
quoi.
Pour avoir des bénéfices. Pour donc subvenir à sa famille et puis avoir un petit peu de pouvoir. Voilà. Bon, alors il lui arrive une histoire incroyable. C'est qu'en 1605, il disparaît de la circulation parce qu'il est capturé, et ça c'est une réalité...
À Aigues-Mortes.
Ah oui, par des pirates. Les barbaresques.
Les barbaresques, oui.
Ouais. Il revenait de Marseille, je crois, en bateau.
C'est ça.
Et il est capturé par des pirates. Et il est esclave.
Pendant 2 ans.
À Tunis.
Voilà.
Alors là, il y a toute une légende dorée qui dit qu'il a converti son maître, enfin qu'il a presque...
Oui, qui était un Marseillais qui vivait à la musulmane, nous dit la légende.
Exactement, et qui serait revenu avec lui parce qu'il se serait reconverti.
Enfin, avec ses 3 femmes.
Oui.
Avec ses 3 femmes et sans doute de nombreux enfants qui sont allés voir le pape ou je ne sais pas qui.
Enfin, ça c'est la légende dorée, je pense. En fait, il a toujours dit qu'il avait beaucoup prié la Vierge.
Bon.
Et il a donc été libéré au bout d'un moment, parce que les esclaves étaient, bon, il est quand même libéré. Bon, on ne va pas revenir dessus. Donc, le voilà qui revient. Et là, ça y est, il commence à percer, c'est le cas de le dire.
Et oui.
Voilà. Il est nommé curé de Clichy.
Oui.
Voilà, en 1612. Il est même aumônier, un des aumôniers de la reine Margot, l'ancienne femme d'Henri IV.
Oui.
Ce qui n'est pas rien. Ça y est, ça oui. y est.
Clichy qui devait d'ailleurs être un village à l'époque.
Certainement,
une
oui.
Une petite ville,
oui.
peut-être.
Mais c'était près de Paris.
Voilà, c'était près de Paris.
On était
oui,
à Paris.
Bien sûr.
Voilà. Et bien là, c'est, il est presque arrivé. Il est presque arrivé à ce qu'il voulait.
Mm-hmm. Hein oui, oui.
Et même mieux, parce qu'il va être, en 1613, ça, c'est là que son ascension sociale commence, là. Hein. Il est précepteur des enfants du prince de Gondi. Alors, oui. Il rentre vraiment dans la très haute aristocratie.
Et voilà. Oui, oui, oui.
Voilà.
Et sa femme va faire partie, donc, des filles de la charité qu'il va fonder ensuite. Alors,
voilà, donc il va être vraiment, ça y est, il est arrivé, et on ne peut plus, il est introduit dans la haute aristocratie parisienne, etc., la noblesse. Bon. Mais il rencontre à Paris le cardinal de Bérulle.
Voilà.
Et le cardinal de Bérulle, c'est le grand spirituel de l'époque.
Oui.
C'est le fondateur des prêtres de l'oratoire. Et lui, Bérulle, il va le recentrer à Vincent de Paul sur le sacerdoce,
oui.
sur sa mission de prêtre.
Sur sa spiritualité.
Voilà,
oui.
Sur sa mission de prêtre auprès des fidèles et non pas chercher des bénéfices. Vincent de Paul dira que c'était sa conversion.
Absolument.
Donc, à ce moment-là, il est toujours quand même dans le sillage des princes de Gondi. Il va suivre les princes de Gondi qui avaient des terres à l'extérieur. Il va suivre la famille, il fait partie de la famille. Hein. C'était comme ça dans les aumôniers.
Bien sûr. Il était précepteur des enfants.
Précepteur, voilà. Aumônier de la famille, bon, oui. Il suivait la famille. Hein. Donc, il va aller dans les terres à l'extérieur, en Picardie, du côté de Lyon. Et il va se rendre compte à ce moment-là de la misère
paysanne,
la misère spirituelle et de la misère matérielle. Hein. Et là, ça va changer sa vie quand même, quelque part. En une journée, il confesse, je crois, tout un village. Et c'est avec Madame de Gondi qu'il fonde à ce moment-là les prêtres de la mission. Bon, le terme mission est assez explicite. Ça veut dire l'évangélisation.
Oui. Hein.
Évangélisation de ces campagnes.
Dans les territoires, oui.
Laissées à l'abandon. Évangélisation aussi, après, des continents. Ça, on le verra plus tard, puisque les prêtres de la mission sont partout. Mais ils fondent d'ailleurs... Alors, ce sont ce qu'on appelle les lazaristes, parce que la maison mère était à côté de l'église Saint-Lazare ou rue Saint-Lazare. Ils ont pris ce nom-là, quoi.
Oui.
Et maintenant, la maison mère est rue de Sèvres, à Paris. Et c'est là où se trouve d'ailleurs la châsse
oui.
et le corps de Saint-Vincent de Paul dans la chapelle dont des lazaristes rue de Sèvres. Le voilà donc quand même plus proche au service des pauvres, des malades, essayant de les évangéliser. Et donc, la charge auprès des Gondi commence à lui peser un petit peu. Hein, et c'est pour ça qu'il part carrément.
Oui, il se rend compte qu'il y a deux mondes
voilà.
bien séparés.
Bien séparés hein. et que sa place n'est pas là, sans voilà. doute. Et il s'en va curé de campagne, carrément, dans les Dombes, du côté de Lyon.
Au nord de Lyon.
Au nord de Lyon, je crois que c'était une région très déshéritée
oui,
aussi.
Oui, très déshéritée, marécageuse.
Voilà.
Voilà, avec évidemment les maladies qui...
Oui, elles ne seront assainies que beaucoup plus tard, au voilà. 18e, oui. les Dombes. Et bien, il va là, et là, il se rend compte en effet que... il faut dire que c'est une période aussi très difficile pour la France. Le siècle de Louis XIII est très dur. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits, c'est la guerre de 30 ans. Qui a ravagé un peu l'Est et tout l'Est de la France et le Nord. Il y a des conflits intérieurs, des conspirations. Le cardinal de Richelieu qui veut imposer l'absolutisme, qui se heurte aux nobles. Et donc, la misère était grande. Épidémie, famine. C'est un siècle très dur, le siècle,
oui.
le règne de Louis XIII. Et donc, il va y avoir l'idée de mobiliser les gens. Et il mobilisait les femmes de la bourgeoisie, les femmes de la noblesse. En fait, c'est un fédérateur, Saint-Vincent de Paul. Il fait travailler tout le monde.
Oui, c'est ça.
Riche, pauvre, noble, laïque, prêtre. C'est un fédérateur. Et en effet, il fonde alors à ce moment-là les confréries de la charité. Les confréries de la charité, ce sont des dames, on dira plus tard des dames patronesses, mais enfin bon, des dames de la bourgeoisie ou des dames de l'aristocratie qui se mettent au service des pauvres, des malades, qui envoient des vivres, qui vont les soigner, qui s'occupent des enfants abandonnés, etc. Bon, et donc ça, c'est à ce moment-là qu'ils fondent ça. Mais ça ne va pas suffire quand même, parce que ces dames, bon, elles le font, mais plus ou moins bien. Bon, ils trouvent quelqu'un pour le coordonner, c'est Louise de Marillac,
oui.
Avec qui. Et là, il va fonder carrément les Filles de la Charité.
C'est ça.
Avec Louise de Marillac, qui est une veuve, qui devient la première supérieure des Filles de la Charité. Alors, les Filles de la Charité, cette fois-ci, ce sont des religieuses de plein vent, en fait.
Oui.
Elles sont sur le terrain. Et là, c'est l'habileté de Saint-Vincent de Paul. Parce qu'à l'époque, une religieuse était dans un couvent. On ne pouvait pas... Saint-François de Sales, qui avait créé l'ordre de la visitation, s'était cassé le nez là-dessus. Il aurait voulu que ces religieuses sortent, mais il a été coincé, elles sont restées dans un couvent. Saint-Vincent de Paul a dit, « Mais ce ne sont pas des religieuses, mes filles. Ce sont des bonnes filles, là, qui veulent se mettre au service des pauvres, des malades.
Ce sont des laïcs.
Et c'est vrai. Et c'était vrai. Elles n'avaient pratiquement pas d'habits, au début,
d'uniforme.
Voilà, pas d'habits religieux. Bon, elles avaient des vœux qui n'étaient pas perpétuels, je crois, ou elles n'en faisaient pas. Il y avait une règle qui était très lâche, etc. Donc, en effet, et c'est comme ça qu'il a pu mettre sur le terrain ces jeunes femmes, venues alors par contre de milieux plus populaires peut-être, hein, ou un peu de tout aussi, pareil, j'ai dit qu'il était fédérateur. Et c'est quelque chose qui va durer très longtemps, un ordre qui va être partout, auprès des enfants trouvés, les fameux enfants trouvés. Qu'à l'époque aussi, il y avait tous les enfants étaient à plus ou moins, beaucoup d'enfants abandonnés.
Abandonnés, qu'on abandonnait sur les marches de l'église, la nuit.
Voilà.
Et qu'on retrouvait au matin.
Dans un panier.
Voilà, dans un panier ou dans des linges. Ouais,
etc. Ouais. Ou dans les couvents. Et ça, il va donc fondre l'œuvre des enfants trouvés en 1638. Voilà. Et il va être aussi aumônier des galères.
Oui. Oui, parce que Monsieur de Gondi est général des galères.
Monsieur de Gondi est général de galères et dont l'amène auprès de ses galériens. Et là, il va être donc aumônier des galères. Il va. J'ai souvenir d'un film dont je parlerai plus tard où il prend la place des galériens. Il se met carrément à ramer comme les galériens. Bon, voilà. Donc, il est auprès des prisonniers.
Oui.
Alors, c'est quelqu'un qui balaie tout le secteur. De la charité, de la fraternité ou de la solidarité, tout ce qu'on voudra appeler de nos jours, parce qu'il s'occupe des malades, il s'occupe des pauvres, il s'occupe des enfants orphelins, il va créer des hôpitaux, l'hôpital de la Salpêtrière,
qui
a été fondé par Saint-Vincent de Paul, l'hôpital de Bicêtre pour les fous, les prisonniers, on l'a vu, les vieillards, des hospices, il est sur tous les fronts, Saint-Vincent de Paul. Aidé, bien sûr, par Louise de Maria, qui a fait beaucoup, surtout avec l'Ordre des Filles de la Charité.
Oui, qui se fonde un peu partout en France.
Voilà, exactement. Hein. Oui. Et qui est demandée partout. Et alors, plus tard, elles auront les fameuses cornettes blanches.
Voilà, les sœurs cornettes.
Voilà.
Oui, qui ont subsisté jusqu'à nos jours, les années 60 encore.
On les voyait.
C'était le surnom affectueux qu'on leur donnait, les sœurs cornettes.
Et dans les films de Louis de Funès, il y a toujours une cornette.
Mon fils
C'est assez... Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Il va y avoir une explication. Enfin, voilà. Donc, il devient quelqu'un quand même de très connu. Il devient le confesseur du roi. Il est auprès de Louis XIII, lorsqu'il décède en 1643. Il devient le confesseur de la reine régente Anne d'Autriche.
Oui, Anne d'Autriche.
Voilà. Il fait partie des du conseil de conscience, c'est-à-dire ce qui administre l'Église. Parce que, alors maintenant, passons à quand même l'autre facette de Saint-Vincent de Paul, la spiritualité.
Oui.
Saint-Vincent de Paul lit le matériel, le moral, le spirituel et le matériel. L'aide aux pauvres, l'aide aux malades, enfin, etc. La charité et aussi le spirituel.
Voilà, la prière et l'action.
La prière et l'action. Il y a ses prêtres. Il les fonde le premier séminaire. Et c'est, j'ai dit que Alain de Solmignac avait fait appel aux lazaristes pour son séminaire de Cahors.
Voilà, suite à la réforme de Charles Borromée
voilà,
au siècle précédent.
La contre-réforme. Hein, voilà. Donc Saint-Vincent de Paul est une figure aussi de la contre-réforme, comme Saint-François de Sales, oui. Alain de Solmignac, Saint-Charles Borromée. Bon, les séminaires, ils fondent des conférences pour l'instruction des gens. Et là, tout le monde est mélangé. C'est-à-dire les nobles, les prêtres, les laïcs, les artisans, pour l'enseignement. Il enseigne, il évangélise à travers des conférences sur la foi et la compréhension. Voilà son action spirituelle. Il dira « L'amour est inventif à l'infini ». Donc c'est un organisateur, un animateur, un fédérateur. Et il meurt donc en 1660 à Paris, à 79 ans, ce qui est un âge quand même assez avancé, auprès des frères lazaristes. Il est donc, on a dit, canonisé à 1797. Il est le patron de toutes les œuvres de charité. Et je crois qu'il est le père carrément de l'action médico-sociale moderne, ou du moins presque toutes les institutions sociales ont presque une origine auprès de Saint-Vincent de Paul.
Oui.
Voilà. Et il y a eu un film qui a été fait sur sa vie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film ancien de 1947 où le rôle était tenu par Pierre Freinet.
Oui. Oui, c'est un souvenir très ancien, mais oui. ça me dit quelque chose, en
voilà.
effet. Oui.
Je l'ai
avec
vu.
Pierre Freinet qui était remarquable dans ce rôle.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et j'ai encore des images de ce film. Je l'ai vu adolescente et je ne l'ai jamais oublié. Mmh. Et j'ai encore des images de ce film.
Et oui, mais il y a des choses qui marquent.
Et c'était vraiment la figure de Saint-Vincent de Paul. Enfin, c'est une grande figure encore de nos jours. Hein. C'est pas entre la charité et la spiritualité.
Oui.
Voilà, homme d'église, en même temps frère des pauvres. Je crois que son message est toujours plus que d'actualité.
J'ai une image fugace de ce film. Saint-Vincent de Paul, évidemment en soutane, qui se glisse la nuit dans les rues pour voir s'il n'y a pas des enfants
abandonnés,
oui. Sur le parvis des églises ou près des hôpitaux, etc. C'est une image très, très fugace pour moi, mais... Je pense que c'était dans ce film.
Oui, moi je me souviens quand il prend la place d'un galérien, justement,
oui.
Puisqu'il est aumônier des galères. Il faut parler des confréries de Saint-Vincent de Paul, qui existent toujours, et qui sont donc des réunions entre des groupes de laïcs qui se mettent au service d'œuvres de charité ou d'œuvres de solidarité dans les paroisses ou ailleurs. Voilà. Et ça, c'est une œuvre, c'est les confréries de Saint-Vincent de Paul qui continuent,
qui sont très importantes.
Et qui sont très importantes, oui.
On peut dire que dans la région, la grande région du sud de la France, du sud-ouest du moins, on peut retrouver des œuvres donc, du frère Jean André, dont Anne-Marie nous a parlé de son tableau. À Agen, il y a au Musée des Beaux-Arts la présentation de Jésus au Temple. À Bordeaux, dans l'église Notre-Dame, il y a plusieurs tableaux sur Saint-Dominique, sur Saint-Thomas d'Aquin, sur Saint-Pierre de Vérone, sur Saint-Hyacinthe, Saint-Pie-V, voilà. Et puis d'autres. Et ensuite à Brive, également, dans la collégiale Saint-Martin, une peinture sur les pèlerins d'Emmaüs. À Pamiers, également, dans la cathédrale Saint-Antonin, il y a plusieurs œuvres, il y en a trois, l'adoration des mages, Jésus chassant les vendeurs du temple et la nativité de Jésus. Et puis à Rodez. À Rodez, dans la cathédrale Notre-Dame, Saint-Pie-V priant pendant la bataille de Lépante, qui est datée de 1711. Voilà.
Voilà. Il était né en 1662 à Paris et il est mort en 1753. Il avait été formé par Charles de la Fosse, le peintre.
Oui.
Il a fait aussi un séjour à Rome. Hein. Donc, c'était un peintre quand même...
bien sûr.
Ouais,
bien
de,
sûr.
De qualité et bien formé. Bon, encore une œuvre à découvrir.
Mais des oui, œuvres à découvrir. Un peu partout, comme voilà. Ça, au, oui. Au gré de nos voyages. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Avec plaisir.
Pour avoir balayé, si j'ose dire... La vie et l'œuvre de Saint-Vincent de Paul à travers ce tableau que tous les cadurciens peuvent aller voir à l'église Saint-Barthélemy qui s'appelle l'apothéose de Saint-Vincent de Paul. Merci à Imanol pour le suivi de la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement ou occasionnellement. Restez sur votre antenne où le programme continue. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle page d'art sacré. Au revoir Anne-Marie.
Au revoir Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.